Chapitre 23. Mike Handler savait qu'il était quelqu'un de bien. Tous les dimanches, il allait à la messe à l'église épiscopale de Saint Anthony. Il entraînait l'équipe de baseball de son fils et il était un fervent supporter de l'équipe de volley de l'université de Prosser State, dont faisait partie sa fille. Avec sa femme, il donnait chaque année à la NAACP, une organisation américaine de défense des droits civiques, ainsi qu'à la société littéraire de Jefferson Run. Mike était le propriétaire de l'entreprise Guardian Construction, un des plus gros pourvoyeurs d'emplois de la région. Il avait plus d'une centaine de personnes sous ses ordres, dont la plupart ne se rendaient pas compte du stress auquel il était soumis quotidiennement. Bref, l'un dans l'autre, le fait qu'il se rende une fois de temps en temps au dernier étage du Kingdom constituait une incartade somme toute mineure. Il ne s'agissait pas d'une maison close. Personne ne pouvait dire qu'il fréquentait une maison close. Non, Mike était quelqu'un de bien. Le Kingdom était un club privé avec des salons privés, et il arrivait qu'on trouve dans ces salons des filles qui, moyennant rétribution, vous laissez faire tout ce que vous n'osiez pas demander à votre femme, de peur d'essuyer un refus catégorique assorti d'une moue de dégoût. Mais ce n'était pas un bordel. D'ailleurs, on insistait bien sur ce point lors des nouvelles inscriptions. Car quelqu'un de bien ne s'abaisserait jamais à fréquenter un bordel. Étendu sur le dos, Mike affichait le visage rayonnant de celui qui vient de passer un très bon moment. Sa peau sombre reflétait le halo violet de deux appliques murales qui figuraient des cœurs en train de fondre. À la lumière de ses lampes, Mike s'était dit que Bethany, il lui semblait qu'elle lui avait confié sa plaie Bethany, paraissait taillée dans un bloc d'obsidienne, et qu'elle aurait pu être une star de cinéma. Il jeta un œil à sa montre connectée. Lisa lui avait envoyé un message pour lui recommander d'être prudent et de ne pas trop boire. Elle le croyait dans un bar de Richmond avec des collègues, en train d'arroser la fin de la semaine. Il lui renvoya un texto pour lui assurer qu'il faisait attention, qu'il n'avait consommé que deux gin toniques et qu'il serait bientôt rentré à la maison. Mike calcula qu'il devrait partir dans 3 quarts d'heure, afin que son heure de retour soit cohérente avec un trajet embouteillé depuis la capitale de l'État. Lisa n'avait pas besoin de connaître la vérité. Cela ne pourrait que la faire souffrir. Or, quand on était quelqu'un de bien, on ne faisait pas souffrir les gens qu'on aimait. La porte s'entrebâilla, et Mike se tourna sur le flanc en prenant une pose qu'il espérait sexy, avant de se rendre compte qu'il devait avoir l'air ridicule et il se remit sur le dos. Il payait Bethany suffisamment cher pour qu'elle le trouve sexy sans qu'il ait besoin de fournir le moindre effort. Sauf que ce n'était pas la jeune femme qui revenait après s'être éclipsée aux toilettes, mais 3 hommes qui pénétrèrent dans la chambre avant de refermer derrière eux. Mike voulut sortir du lit, mais le dernier à être entré lui fit signe de rester où il était. Comme le deuxième, il portait un jean et un sweat à capuche. L'autre, celui qui avait franchi la porte en premier, arborait une veste en cuir légère au-dessus d'un pull à col roulé noir. C'était la dernière semaine de septembre, mais il faisait particulièrement froid pour la Virginie, ce qui facilitait le travail sur certains chantiers dont Mike avait la charge, mais qui, si les températures continuaient à chuter, promettait de compliquer les choses dans les semaines à venir.
Qu'est-ce qui vous amène, messieurs ?
S'enquit Mike.
« Monsieur Handler, ça vous dérange si je vous appelle Mike ?»
demanda celui qui portait la veste en cuir.
« Non, non. »«
Mike, mon nom est Roman, et j'ai bien peur que nous ayons un problème à résoudre. »
Le chef d'entreprise s'adossa à la tête de lit et se passa la langue sur les dents. Il s'agissait d'une tentative d'extorsion. C'était le risque lorsqu'on dirigeait une grosse société et qu'on fréquentait un endroit comme le Kingdom. Il décida que si ses racketeurs ne se montraient pas trop gourmands, il céderait à leur demande, quitterait cette chambre au plus vite et reprendrait le cours de sa vie. Tant que ces hommes ne lui présentaient ni photos ni vidéos de ses ébats, l'affaire serait vite réglée. Mike comprenait qu'il y avait un prix à payer pour ses petites incartades et il l'acceptait.
« Bon, dit-il, combien pour qu'on oublie tout ça ?»
Roman sortit une enveloppe de sa poche.
« Non, Mike, votre argent ne nous intéresse pas. C'est de votre signature que nous avons besoin. J'ai ici un contrat par lequel vous allez transférer 51% de Guardian Construction à la société JCR Investments. Dès que vous l'aurez paraphé, nous serons associés et les affaires vont décoller. Vous n'êtes pas sans savoir que la mairie est sur le point de lancer des appels d'offres pour le projet de revitalisation du Skids. Vous, vous avez votre équipe de démolisseurs. De nombreuses propriétés destinées à être détruites ont déjà été vendues ou vont l'être incessamment, ce qui veut dire que les travaux vont bientôt pouvoir commencer. Guardian va obtenir ce contrat et vous, vous allez gagner un associé. Mike éclata de rire. Il riait si fort que le drap qu'il avait remonté sur son torse glissa jusqu'à son ventre. Au bout de quelques secondes, enfin calmé, il s'essuya les yeux avec le dos de la main. « Messieurs, je suis prêt à vous faire un chèque pour que ma venue ici reste confidentielle, mais je ne vais certainement pas vous céder plus de la moitié de mon entreprise. J'ai des employés à qui je dois penser, des équipes. Par contre, chapeau pour votre audace. Mais soyons sérieux un instant. Quelle somme va me permettre de quitter cette chambre ?» Une expression attristée traversa le visage de Roman, qui récupéra une chaise pliante en métal dans un coin de la pièce et la tira jusqu'au bord du lit. Il s'assit et se pencha vers Mike. « Mike, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris la situation, » dit-il. « Cette signature, je vais l'obtenir. Reste à savoir si ce sera dans la douleur ou pas. Parce que vous voyez ces deux hommes derrière moi ?» ajouta-t-il en désignant les jumeaux Bang Bang. « La douleur, c'est leur spécialité. » Comme pour illustrer les dires de Roman, Lucius sortit une pince étau de sa poche et la ferma d'un coup sec. Le claquement des mâchoires fit frémir Roman. Mike le fusilla du regard. « Vous croyez que vous pouvez me menacer comme si j'étais un cutéreux, mal dégrossi qui débarquait tout droit de l'Alabama ?» gronda-t-il. « Messieurs, quand mon père a fondé l'entreprise Guardian, il n'avait que deux brouettes et son ambition. Je dîne avec le maire et les représentants de la chambre de commerce une fois par mois. Je fais des donations à la police de Jefferson Run. Vous voulez que je passe à la caisse pour cette pute ? Pas de problème. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis prêt à vous faire un chèque. Par contre, vous n'aurez pas ma boîte. Et je sais que vous ne me tuerez pas non plus. Parce que vous avez besoin de ma signature en bas de votre contrat ridicule. Donc je vous préviens, si vous vous approchez de moi avec votre pince, vous allez vous retrouver avec non seulement les flics au cul, mais en prime, la municipalité. » Roman se redressa sur sa chaise. « Mike, à qui avez-vous dit que vous alliez au Kingdom ? Qui est au courant que vous êtes là ? Pour ce qui est du maire, j'ai rendez-vous avec lui lundi. Je lui passerai le bonjour de votre part, si vous voulez. » Il se leva et se tourna vers les jumeaux Bang Bang. « Faites en sorte que ça ne se voit pas, » ordonna-t-il en s'éloignant vers le fond de la pièce. « Et n'oubliez pas qu'il a besoin de sa main pour signer. » Les deux autres s'avancèrent vers le lit. Mike Handler était un homme de 55 ans assez imposant, qui avait passé le plus clair des étés de sa jeunesse à vider des palettes de briques et de parpaings et à mélanger du mortier sur les chantiers de son père. À une époque, il était capable de soulever 200 kilos en développé couché, 270 en squat, et il pouvait porter deux sacs de ciment sur chaque épaule. Hélas, en 40 ans, il avait eu le temps d'ingurgiter un certain nombre de côtes de bœuf, et Lucius et Levon n'eurent aucun mal à le plaquer sur le lit. Mike tenta bien de se débattre, mais un coup de poing dans ses parties génitales exposées eut au fait d'étouffer ses velléités de rébellion. Sans ménagement, Lucius saisit un bourrelet au niveau du nombril de Mike, le coinça entre les mâchoires de la pince étau et serra l'outil jusqu'à ce qu'il se verrouille. Aussitôt, un gémissement terrible s'échappa de la gorge du chef d'entreprise et un filet de sang se mit à couler sur son ventre. Le malheureux essaya à nouveau de se débattre, mais Lucius et Levon pesaient plus de 100 kilos chacun et ils n'eurent aucun mal à le maintenir plaqué sur le matelas. Roman grimaça. La souffrance sur le visage du chef d'entreprise avait quelque chose de biblique. Entre ses yeux écarquillés et sa bouche tordue par la douleur, on aurait dit une sculpture du Christ en croix, comme on pouvait en trouver dans toutes les églises baptistes du sud des États-Unis. « Signez, Mike, je vous en prie. Ne nous forcez pas à continuer. »
L'homme gémit de plus belle. Lucius interrogea Roman du regard. Celui-ci hocha la tête. Et Lucius fit faire un demi-tour à la pince.
Mike avait le teint légèrement plus clair que celui de Roman. Entre les mâchoires métalliques, en revanche, sa peau avait pris une couleur bleutée qui tirait sur le violet.
Lorsque Lucius avait tourné la pince, le filet de sang s'était intensifié pour couler jusqu'au matelas. Et le gémissement du malheureux s'était transformé en un hurlement de bête sauvage.
« Mike, s'il vous plaît, arrêtons ça !» insista Roman.
Lucius déverrouilla la pince et s'attaqua à l'aisselle de Mike. Avec un détachement qui confinait à l'ennui, il saisit un morceau de chair entre le pouce et l'index, le coinça entre les mâchoires de l'outil et tourna. Mike hurla.
« La prochaine fois, ce sera plus bas !» prévint Roman, en regardant le sang couler sur le flanc du chef d'entreprise.
« Pitié !»
sanglota Mike.
« Je vais signer !»
Il était minuit et demi ce vendredi soir lorsque Roman frappa à la porte de l'appartement de Jay. Au quatrième coup, celle-ci ouvrit, vêtue d'un t-shirt trop grand pour elle et d'un pantalon de pyjama à fleurs rouges et jaunes. À l'intérieur, les seules lumières semblaient provenir de la télévision. Roman entra et referma derrière lui.
« Tu dormais ?»
demanda-t-il, même s'il lui avait envoyé un message quelques minutes plus tôt, juste après avoir déposé le contrat signé par Mike dans le coffre-fort du Trautz.
« Non, mais je voulais pas paraître trop en manque de sexe, » répondit Jay. « C'est jamais bon de passer pour une junkie. »
Roman rit et attrapa un pan de son t-shirt pour l'attirer à lui. Ils s'embrassèrent longuement, leurs lèvres pressées l'une contre l'autre. La bouche de Jay avait un goût sucré de fruits. Lorsque le baiser se termina, Roman remarqua un verre de liquide rouge posé sur la table basse et devina qu'il s'agissait de Kool-Aid à la cerise.
« Je ne suis pas venu dans cette optique, » dit-il. « J'avais envie de passer du temps avec toi. »
« Mais après m'avoir déshabillé, hein ?»
fit Jay en se laissant tomber sur le canapé.
« Chaque chose en son temps. Là, je veux juste m'allonger à côté de toi et t'écouter me raconter ta journée. »
« Attends, tu veux que je te raconte ma journée avant de coucher avec moi ? Mais de quelle planète tu viens ?»«
D'une galaxie très lointaine, » répliqua Roman du tac au tac.
Et il s'étendit sur le dos, la tête sur le ventre de Jay.
« T'es bête. Mais t'es sûr que ça va ?
J'ai conscience d'être irrésistible, mais on est vendredi soir. Pourquoi t'es pas au camp de 10 en train de boire des bières avec tes copains ?»«
Tu sais, les seules personnes avec qui je traîne ici, c'est Dante et mon ami Khalil. »
Roman ne pensait pas qu'il y avait grand risque à mentionner Khalil. Si Jay devait le rencontrer un jour, ce serait quand tout serait terminé. Il prit sa main et la posa sur son torse.
Quand tout serait terminé.
Qu'est-ce que cela signifiait au juste? Quand les frères de Jay seraient morts ou en prison? Quand Dante pourrait se promener dans la rue sans avoir à craindre qu'on l'embarque de force dans une voiture pour l'emmener se faire dévorer par des chiens affamés? Quel pouvait être l'avenir de leur relation si Jay devait perdre ses frères à cause de Roman?
Le père de Roman avait coutume de dire que si dans la Bible Dieu avait détruit la terre avec de l'eau, la prochaine fois, ce serait par le feu.
Roman se souvenait d'un dimanche, c'était avant la disparition de sa mère, où le révérend Oakley Devlin avait déclamé tout un sermon sur l'Apocalypse. Sur le chemin du retour, alors qu'ils étaient tous entassés dans le monospace familial, qui faisait aussi office d'utilitaire, leur père avait donné son point de vue sur les propos du pasteur.
Selon les scientifiques, dans plusieurs millions d'années, la Terre va être engloutie par le Soleil. Mais si les politiciens qui nous dirigent continuent sur le même rythme, on n'aura pas à attendre jusque-là. Quand tu penses à toutes les bombes nucléaires qui disparaissent, d'une manière ou d'une autre, ça se terminera dans les flammes.
Dante avait fondu en larmes à l'idée que le Soleil dévore la Terre, et leur père avait dû faire un détour par le marchand de glace de Sycamore Avenue pour le consoler. Roman aussi avait été perturbé par la leçon d'astronomie paternelle, mais dès que Dante s'était mis à sangloter, il avait ravalé ses angoisses afin de ne pas inquiéter davantage ses parents. Il embrassa la main de Jay. Jamais il n'avait vu un rouge aussi vif que le sang sur le ventre de Mike Handler.
Après avoir signé le contrat, l'homme avait pleuré, un peu comme Dante toutes ces années auparavant. Roman et les jumeaux Bang Bang l'avaient abandonné dans la chambre du Kingdom, nu et meurtri, en ne lui laissant que la moitié de la compagnie que son père avait bâtie à partir de rien. Il se rappela que son père aussi était parti de rien. Il ferma les yeux. Quelques heures plus tôt, il avait assisté à une séance de torture. Dans quelques jours, il allait soudoyer le maire. Il avait tué un homme et son frère en avait tué un autre. Il avait orchestré une fausse fusillade qui avait valu à un innocent de se retrouver à l'hôpital. Roman savait qu'il avait de bonnes raisons de faire ce qu'il faisait, puisque la fin était de sauver sa famille. Tous les moyens étaient justifiés. Mais pouvait-on imaginer que les choses se terminent autrement que dans les flammes ?
« On va dans la chambre ?» suggéra Jay.
« D'abord, il faut que je te dise quelque chose. Ta femme veut que tu rentres pour sortir les poubelles ?» plaisanta Jay. Roman pouvait presque entendre son sourire. Il se redressa et se tourna pour lui faire face. « La semaine prochaine, tu risques de me croiser à l'hôtel de ville. Tu te souviens que je t'avais expliqué que j'étais revenu dans le coin pour aider ma sœur, en qualité de conseiller financier. Eh bien, j'ai rendez-vous avec le maire pour discuter d'un éventuel agrandissement du crématorium et pour voir avec lui s'il peut nous simplifier les démarches en vue de l'obtention d'un permis de construire. Je précise que c'était dans le tuyau avant qu'on se rencontre. Mais voilà, je voulais pas que tu sois surprise ou que ça te mette mal à l'aise.
D'accord,
fit Jay avec un haussement d'épaule.
Est-ce que je peux te poser une question? Une question sérieuse?
Bien sûr.
Comment est-ce que tu connais mes frères? Parce que j'ai beau ne pas être très proche d'eux, je sais ce qu'ils font, dans les grandes lignes en tout cas, et je veux pas avoir affaire à tout ça. La fusillade de l'autre soir a été une bonne piqûre de rappel d'ailleurs. J'ai le même père que Terence et Tracy, et je leur suis reconnaissante de m'avoir trouvé ce job à la mairie, mais ça s'arrête là. Tout ça pour dire, si cette vie-là t'intéresse, je suis pas sûr que notre histoire puisse continuer.
Roman lui caressa la joue. Les yeux de Jay le suppliaient de ne pas être mêlé aux affaires de ses frères. Un autre mensonge se fraya un chemin jusqu'à ses lèvres.
Ils avaient des questions sur ma firme de gestion de patrimoine, dit-il. Moi aussi, je crois que j'ai une assez bonne idée de ce qu'ils font. Mais j'ai l'impression qu'ils cherchent à se ranger. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est le sentiment que j'ai eu.
Malheureusement, je suis pas sûr que ce soit possible pour eux. Notre père les a plongés dans cette vie quand ils étaient encore enfants. Terence a passé 2 ans dans un centre de détention pour mineurs pour avoir tabassé un gamin qui était amoureux de la même fille que lui. Tracy n'arrête pas de faire des allers et retours en prison. D'ailleurs, à un moment, il était incarcéré avec notre père. Bref, même s'il le voulait, je suis pas sûr qu'il serait capable de revenir du bon côté de la barrière.
À Atlanta, j'ai aidé plusieurs personnes à troquer la rue contre une salle de réunion. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible.
Cette partie-là était vraie.
Tu me jures que c'est la vérité ?
Insista Jay, et Roman l'embrassa. C'est pas pour manquer de respect à tes frangins, mais l'année dernière, j'ai gagné 800 000 dollars, de manière légale. J'ai pas besoin d'eux, Jay. Par contre, j'ai très envie de toi.
Jay lui rendit son baiser. Puis, elle lui mordit la lèvre, fort.
Excité par le goût du sang sur sa langue, Roman l'attrapa par la taille et la souleva du canapé. Jay ne libéra sa lèvre que lorsqu'ils tombèrent tous les deux sur le lit, tandis que, au loin, le bruit d'un train déchirait la nuit.